Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Olivier Véran.
Bonjour et bonne année.
Bonne année à vous. On va voir si elle commence vraiment bien pour le gouvernement. Mais d'abord, elle commence très durement pour le Pas-de-Calais, pour les habitants du Pas-de-Calais. Vous êtes bien sûr le porte-parole du gouvernement. Vous serez sur place juste après cette interview. Vous filez dans la région de Saint-Omer. Il y a plus de 300 habitants évacués. Il y a 50 communes touchées et ça dure. Et ça dure depuis le 11 novembre. Sans arrêt. C'est quasiment de la torture psychologique. En plus d'être une très très grande difficulté matérielle. Il y a Xavier Bertrand, le président de la région, qui vous attend. Il était d'abord mon invité sur RMC il y a quelques minutes. Écoutez ce qu'il dit des ministres qui arrivent.
Nous les ministres, on ne veut pas les voir parce que derrière, on veut que ça suive. Hein. On veut que ça suive, tenez-vous bien. Le ministre de l'Agriculture, il est venu dans les bagages du président de la République en disant on va faire une aide, tout ça. Les maraîchers à Saint-Omer, vous savez, le maraîchage, c'est effectivement avec des plantations qui sont au niveau d'eau. Là, bien évidemment, tout est mort. Ah ben ils attendent toujours qu'on leur parle d'indemnisation. Et pour les agriculteurs du Pas-de-Calais, on leur avait dit la main sur le cœur, vous allez voir, vous allez être aidés par l'État. Là on est en train de leur dire, ben attendez, ça va plutôt être une avance de trésorerie qu'une aide. Non mais on se fout du monde. On se fout du monde. Moi je vais vous dire un truc, les ministres, hein, je ne sais pas s'ils sont en attente de leur remaniement, qui viennent s'installer avec armes et bagages et leurs administrations, et qui viennent s'installer pas pour quelques heures, mais pendant quelques jours pour régler les problèmes.
Vous n'avez pas intérêt à juste arriver puis à repartir, hein.
Mais c'est pas ce qui a été fait lorsque le président de la République s'est déplacé lui-même dans le Pas-de-Calais il y a quelques semaines. Il avait pris des engagements, ils ont été tenus. Un fonds de 50 millions d'euros de soutien. Il avait annoncé que l'ensemble des communes qui en feraient la demande seraient reconnues en catastrophe naturelle. Il avait annoncé que le régime de calamité agricole serait reconnu pour les agriculteurs qui en avaient besoin. Il s'est rendu sur place de la même manière d'ailleurs que le président de la République a appelé hier les maires de plusieurs communes du Pas-de-Calais dans lesquelles il s'était rendu pour leur assurer à nouveau que le soutien de l'État serait effectif dans l'urgence et dans la durée. D'abord, vous dire peut-être un mot de la situation puisque 500 habitants dans le Pas-de-Calais restent encore privés d'électricité. C'était 8500 hier soir, ce qui veut dire qu'on peut saluer le travail des agents sur le terrain, de la même manière qu'évidemment, je ne peux pas parler des inondations sans saluer les pompiers, les forces de sécurité, les élus locaux à la rencontre desquels je me rends avec Christophe Béchu, hein, le ministre en charge de cela dans quelques minutes. Effectivement, on sera plutôt en bottes qu'en chaussures pour aller sur le terrain, pour voir avec les habitants.
Mais la question, c'est pas de la réalité, quelle est la réalité de ce que vous allez leur dire.
D'abord, soutenir les forces qui sont sur place, soutenir les élus qui sont sur place, écouter les habitants, regarder, constater, mettre des images sur des mots. Je pense que c'est plus important que les discours politiques ou de politique aérie. On est face là à un événement de catastrophe climatique, d'accord ? On n'est pas là face à la conséquence d'une décision politique. Donc, face à des catastrophes qui se renouvellent et qui sont amenées à se renouveler, j'espère pas pour les habitants du Pas-de-Calais, mais il est à craindre qu'il y ait chaque année plus d'incendies l'été, plus d'inondations l'hiver. On doit agir et nous agissons. Et donc, s'il faut accélérer des travaux, s'il faut, j'entendais un élu local parler de pompes pour permettre d'évacuer plus rapidement l'eau, il y a des fonds d'intervention qui existent. Nous avons mis en place, par exemple, le fonds vert qui permet de faire des travaux très lourd, très coûteux pour les communes, pour les accompagner. Nous avons levé toutes les contraintes réglementaires qui pouvaient empêcher de réaliser justement des travaux de mise aux normes, de mise aux conformité ou de réparation. Et donc, vous voyez bien que c'est quelque chose, d'ailleurs, c'est assez nouveau dans notre pays, cette capacité à s'affranchir de règles et de normes lorsque la situation l'exige.
C'est au fond un peu ce que vous aviez fait au moment du Covid, hein, sur la question soudain de limiter les obstacles administratifs.
Et après les émeutes urbaines aussi, souvenez-vous.
Sauf que, la reconstruction après les émeutes urbaines. Xavier Bertrand, là, il dit que notamment il y a un certain nombre il fait de la politique.
Mais je ne critique pas l'action de Xavier Bertrand à la tête de sa région. Je dis juste que des discours comme celui-ci, qui sont pas très affables, pas très aimables à l'égard de ministres qui viennent justement au contact sur le terrain dans l'urgence pour aller voir les maires. Je crois que là, on peut mettre juste de côté les questions politiques. On doit être unis face à ce qui relève encore une fois de problèmes climatiques.
Mais parlons très concrètement. Il dit par exemple que l'une des nécessités, et ça, on le voit aussi aux Pays-Bas, par exemple, c'est de nettoyer régulièrement les rivières. Il dit il y a certaines communes où ils ont deux agents municipaux. Ça ne suffit pas pour nettoyer les rivières. Ça ne suffit pas pour le travail qui est nécessaire aujourd'hui. Ça veut dire que l'État doit, à un moment ou à un autre, peut-être changer cela, non ?
L'État, qu'est-ce qu'il fait déjà aujourd'hui ? Encore une fois, le fonds vert, quand on parlait du fonds vert, j'en ai parlé d'ailleurs sur votre plateau, c'est quelque chose qui paraît un peu ésotérique, les gens se disent tiens, un nouveau fonds. Enfin, ce fonds vert, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent mis à disposition des communes qui souhaitent pouvoir piocher dedans, justement pour réaliser ce type de travaux, parce qu'ils ont des besoins complémentaires. Donc, nous faisons en sorte que les acteurs de terrain qui ont des besoins puissent les réaliser, en lien évidemment avec le préfet qui est le garant de l'autorité de l'État dans les territoires.
Sur la question des élus, vous le disiez, vous allez être accueillis tout à l'heure par un certain nombre de maires. Xavier Bertrand le disait tout à l'heure aussi, il disait que les élus, ils se sentent très seuls parce qu'ils sont à portée de baffe, comme on dit, et que les habitants n'en peuvent plus, qu'ils sont excédés, épuisés, extrêmement découragés et même révoltés, c'est le mot qu'il utilisait. Est-ce que là aussi vous allez davantage les accompagner, les élus qui sont déjà très éprouvés, hein? On sait que 2023 a été une année très dure pour eux.
Ce qui est certain, c'est que quand vous vivez une inondation, lorsque vous êtes victime d'une inondation avec des pluies qui ne s'arrêtent pas, hein, le Pas-de-Calais reste en vigilance rouge, il va continuer de pleuvoir pendant manifestement deux jours. Il y a cinq départements aussi qui sont encore en vigilance orange. Lorsque vous avez votre maison qui est envahie par l'eau, vous voyez vos meubles qui flottent, vous voyez vos vêtements, les jouets de vos enfants, vous voyez votre matériel audiovisuel qui est foutu. C'est quelque chose qui est traumatisant. Moi, titre personnel, j'ai vécu une inondation dans la maison de mes parents, à côté de Grenoble, lorsque j'étais gamin. Je m'en souviens encore. Je me souviens des truites qu'on avait retrouvées, même dans la cave, lorsque l'eau s'était échappée, de tous les biens qui avaient été perdus. C'est un véritable traumatisme. C'est quelque chose de traumatisant. Donc, que les gens soient en colère, que les gens soient en détresse, que les gens aient des questions, que les gens aient peur et qu'ils aient besoin d'être accompagnés, c'est une évidence. C'est une évidence. Et je leur dis ce matin, comme le président de la République leur a dit lorsqu'il y a eu les derniers épisodes, et lorsque, de la même manière que les autres ministres en charge de ces questions leur ont dit, nous sommes à vos côtés, pas seulement aujourd'hui, mais dans la durée. Dans la durée. Et donc, ce qui doit être réparé, le sera. Ce qui doit être protégé, le sera. C'est un travail gigantesque qui est celui qui consiste à s'adapter aux évolutions du climat et à ses conséquences sur nos territoires.
Dans la durée, 2024, on va parler dans un instant, et vous allez nous donner quasiment le mode d'emploi d'un certain nombre des nouveautés de l'année en termes de bonus écolo, de tarifs, de pouvoir d'achat. Mais cette année 2024, elle commence surtout sur une attente. On attend. Alors, il n'y a pas de conseil des ministres aujourd'hui. Il devait y en avoir un, il a été annulé. Il y en aura un la semaine prochaine. On attend. Est-ce que vraiment le pays peut comme ça vivre dans l'attente qu'Emmanuel Macron décide si oui ou non il garde Elisabeth Borne, s'il vous garde, s'il garde les uns les autres?
Mais vous parlez d'attente, moi je parle d'action, pardon, je suis ce matin sur votre plateau comme porte-parole du gouvernement. On a parlé du Pas-de-Calais dans lequel on se rendra, le ministre de l'Intérieur est actuellement à Marseille. L'ensemble des collègues ministres sont déjà rentrés à Paris dans leur ministère pour préparer la rentrée pour l'ensemble des Français. Et puis vous parlez d'attente, moi je parle déjà de résultats visibles. Au 1er janvier, il y a beaucoup de choses qui ont changé de manière tangible pour les Français. Les pensions de retraite ont augmenté, le SMIC a augmenté, les gratifications de stage ont augmenté, les jeunes de 17 ans peuvent désormais passer le permis de conduire, et il y a des prestations sociales et sanitaires qui sont plus accessibles pour un certain nombre de nos compatriotes, il y a les aides aux entreprises qui sont prolongées ou accentuées, donc il y a beaucoup de choses positives qui changent pour les
qui
Français au 1er janvier,
et qui se sont mises en place
dans des bonnes conditions. Oui, mais je crois, vous savez, que pour les gens qui nous regardent ce matin, pour beaucoup qui ont déjà repris le chemin du travail, c'est quelque chose qui leur parle un peu plus que de savoir s'il y aura ou il n'y aura pas le remaniement.
Moi, je
vais avec
vous dire,
un tel
le remaniement, je
crois
fiche.
Que c'est le concret.
En revanche,
bon.
Ce que je constate, et là on peut le dire en tant que journaliste, c'est que, alors vous, oui, vous allez, parce qu'effectivement il y a cette urgence climatique et il y a cette urgence dans le Pas-de-Calais. Gérald Darmanin est à Marseille, mais il y en a beaucoup de vos collègues qui nous disent ah, ben on devait venir, puis finalement on ne vient pas parce qu'on attend. Eux-mêmes, ils attendent.
Ils attendent. Mais non, personne n'attend.
Ah bon, personne n'attend. Vous avez lu Parisien ce matin. Vous avez lu votre collègue Clément Beaune qui fait savoir qu'il est disponible, qu'il veut rester. Vous avez lu ça?
Non, Clément Beaune, il revient sur l'épisode de la loi immigration. Je vous dis juste que j'ai déjà connu des périodes pendant lesquelles on parle de remaniement, etc., etc. Des fois où d'ailleurs des remaniements qui sont pré-annoncés, vous pouvez avoir un peu de tension et de relâchement. C'est pas du tout ce que je perçois chez mes collègues. Et je peux vous garantir que j'ai fait un large tour de mes collègues. J'étais avec Roland Lescure encore hier soir aussi au téléphone pour parler de l'industrie et de la réindustrialisation du pays, etc. Enfin, franchement, je sens pas ça. Voilà. Ça veut pas dire qu'il y aura pas. J'en sais rien. C'est pas à moi de vous le dire.
C'est ça ce que
j'aime
bien, c'est votre petite astuce. Mais en même temps, faut pas qu'il dise qu'il y a pas, parce qu'il va quand même s'en dire. Non, mais j'ai pas nié
ce qu'il y a dans l'air, parce que vous en parlez. Mais je ne sais pas si c'est une réalité ou non. Je vous dis juste que ça n'a pas de conséquence sur l'action.
Mais on est bien d'accord que c'est pas une pure invention des journalistes.
Vous savez, le domaine de l'invention, je pourrais en faire un bouquin.
Il y a un point qu'on attend et qui a été annoncé par Emmanuel Macron. C'est un rendez-vous avec la nation. On va avoir un grand rendez-vous avec la nation en janvier. Tadam, C'est-à-dire.
Et ça, vous en parlez avec une petite pointe d'ironie, et moi, oui, j'en parle avec beaucoup d'attente.
Vous savez pourquoi j'en parle avec beaucoup d'ironie ?
Dites-moi.
Parce qu'on avait déjà eu l'initiative politique d'ampleur. Tadam !
Oui, et donc, qu'est-ce qui s'est passé ?
On a eu le grand débat.
Mais Apolline de Malherbe, eh oui ? Et donc ?
Eh bien, les cahiers de doléances, ils sont toujours dans les mairies, ils n'ont jamais été épluchés.
Je veux bien comprendre. Je vais vous parler du rendez-vous avec la nation, tel que je perçois.
Alors,
moi,
allez-y,
les choses.
Moi je ne demande que
point,
ça.
Juste un point. Le président de la République, il a lancé pour la première fois un grand débat national. Il y a 2 millions de Français qui se sont exprimés. On a fait adopter un projet de loi en urgence un 30 décembre au Parlement. Ben, la prime d'activité, par exemple. Le versement des pensions alimentaires pour les maires isolés, le versement automatique, par exemple. Enfin, si vous posez la question aux millions de Français qui touchent la prime d'activité, vous garantir qu'en termes de pouvoir d'achat et pour que le travail paye mieux, ils voient la différence. Bref, sur la question des autres initiatives présidentielles, les conseils nationaux de la refondation, ça fonctionne énormément dans les territoires, pour l'école et pour la santé. Les conventions citoyennes, autre innovation du président sur le climat, on peut parler des ânes, on peut parler de la fin des véhicules thermiques, on peut parler des passoires thermiques, tout ça c'est la convention climat. La convention fin de vie, vous le savez, il va y avoir une loi, donc ce sont des choses qui fonctionnent. Quant aux rencontres de Saint-Denis, c'était la première fois que l'ensemble des chefs de parti se retrouvaient face au président et des choses qui avancent.
Il n'y en a qu'une seule. Et il n'y a pas eu derrière, je reprends le mot. Le problème, c'est que je trouve le décalage entre une forme d'effet d'annonce,
il y aura juste,
initiative politique majeure.
Il y a juste un énorme chantier sur la décentralisation qui est lancé, un énorme chantier sur la déconcentration qui est lancé, un référendum à venir sur le statut de la Corse, un à venir sur le statut de la Nouvelle-Calédonie, un référendum sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution, tout ça après un rendez-vous. Pardon, moi je pense que c'est utile. Bon, sur ce rendez-vous avec la Nation, ben là aussi, moi, je vois ça comme la possibilité d'un remède contre une forme d'individualisme. Si vous voulez, on a une forme de consommation aujourd'hui un peu à la carte. On consomme à la carte. C'est Netflix, c'est Amazon. On communique on s'exprime à la carte. C'est avec les réseaux sociaux. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner, qui ne doit pas fonctionner à la carte. C'est la nation. Parce que la nation, c'est notre histoire passée, c'est notre histoire actuelle. C'est pour ça que le président de la République citait Ernest Renan, qui a expliqué cela en parlant d'un plébiscite de tous les jours. C'est un socle de valeurs communes, c'est ce qui fait que nous sommes liés les uns aux autres. Et cette nation, elle n'est pas perdue, ringardisée dans un consumérisme mondialisé. Au contraire, c'est ce qui rend tout le reste possible. Et donc, cette nation, il nous faut la célébrer et il nous faut faire lien et corps avec elle. Et il se trouve que 2024 est une année où il y a des rendez-vous à valeur symbolique très forte qui permettent de faire nation.
Vous pensez aux Jeux Olympiques,
qu'on aime ou non le sport, la France va organiser les JO. Et moi, j'entends depuis des semaines, des mois, quand on aborde les JO, parler de ça sous l'angle de est-ce qu'on y arrivera sur la sécurité des transports. Attendez, c'est un grand événement international qu'on doit célébrer. Deux, qu'on soit croyant ou non, la réouverture de la cathédrale Notre-Dame, dans les délais prévus par le président de la République, ce sera un événement extrêmement important. Les 80 ans de la commémoration du débarquement, c'est un événement important. Villers-Cotterêts, avec les grands événements de la francophonie lancés par le président de la République, c'est un événement important.
Complètement décalé.
Mais
par
moi, je vous dis juste, je vous dis juste une chose.
Villers-Cotterêts, c'est super, hein.
Mais je vous dis juste une chose, c'est que on a besoin, et là, c'est le ministre en charge de la démocratie qui vous le dit, on a besoin d'être capable de se réentendre, de s'écouter de nouveau, voire pourquoi pas de se comprendre.
Mais tout le monde est d'accord, mais quelle
personne,
est la manière dont ça va se traduire?
Personne, et moi le premier, ne nie la perte de lien qu'il y a entre la classe politique et les citoyens.
Vous-même, quand vous avez été à Crépol, vous aviez on est à deux doigts de ce drame.
Justement, Apolline de Malherbe.
D'une France totalement divisée.
Justement, on a vécu les émeutes urbaines, on a vécu des événements comme Crépol. On voit une montée des extrêmes, ça peut donner le sentiment, d'ailleurs certaines personnes pour qui j'ai de l'estime, théorise l'idée d'une archipélisation de la société française.
On
parle de France qui aurait vocation à se faire face de manière définitive. Moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que, nous ne sommes pas une société anomique. Nous sommes une société du lien. Et moi, je crois aux preuves tangibles. Il n'y a jamais eu autant d'engagement dans les associations et dans le bénévolat. Aucun autre pays quasiment que la France n'a montré autant de solidité, de courage et de solidarité dans les grandes périodes de crise. C'était le cas notamment pendant la période du Covid, souvenez-vous. Où des jeunes en banlieue de Bordeaux ont été capables de se confiner pour sauver la vie hypothétique de personnes fragiles en Seine-Saint-Denis, par exemple.
Mais je comprends pas. Vous estimez qu'il n'y a pas d'archipélisation? Quand vous avez dit à Crépol, on est au bord d'une France qui bascule.
Je vous redis les choses peut-être de manière plus simple. Je vous dis que, on a changé nos modes de consommation. On a changé nos modes de relation à l'autre. Avec Internet, les réseaux sociaux, ces plateformes. On est aujourd'hui, on va piocher dans différentes identités. On n'est plus appartenant d'une seule identité. Je vous dis juste qu'il y a une communauté, une identité qui doit échapper à cette archipélisation. c'est la nation française, parce que c'est les valeurs que nous devons tous respecter. Regardez comme le débat.
Très théorique.
Regardez le débat sur la baïa.
C'est très intéressant, mais c'est très loin d'un rendez-vous concret avec des effets.
Quand je me rends dans des collèges, dans des lycées professionnels ou autres, et notamment dans des endroits un peu difficiles, et que je vais parler, débattre avec des jeunes de la question de la baïa, je me rends compte que la laïcité n'est plus vécue, n'est plus perçue par une partie de la jeunesse comme étant une chance ou une valeur qu'il nous faut défendre, mais plutôt comme une contrainte. Ça veut dire que c'est un combat de valeurs qu'il nous faut aussi être capable de mener.
Donc il faut réaffirmer valeurs, la laïcité, l'interdiction de la baïa, par exemple, pour vous, ça fait partie de ces rendez-vous de la nation.
Je vous parle de la... Ben, le président de la République lui-même, dans son programme de 2017, par exemple, avait parlé du service national universel, le SNU, pour permettre de recréer du brassage, de la mixité, et permettre de réapprendre à notre jeunesse l'appartenance à la nation.
Universalisé. Est-ce que vraiment ça va devenir un des outils...
Vous rentrez dans la partie qui est à la fois, et j'entends bien que vous me posiez la question moins théorique, mais qui ne m'appartient plus, qui est celle de dire comment concrètement ce rendez-vous avec la nation va se réaliser, va être proposé aux Français, puisque le président de la République lui-même,
d'universalité.
Le président lui-même a dit qu'il aurait l'occasion de s'exprimer pour dire les choses. Je vous dis juste que moi, le constat que je fais, peut-être que je me trompe. Je dis pas que j'ai raison. J'ai rencontré énormément de politologues, d'économistes, de sociologues. Vous recevez aussi beaucoup sur votre plateau, qui vous disent que quelque chose a changé dans notre pays, dans la manière dont on est les uns avec les autres et dans laquelle on vit les uns parfois à côté des autres. Moi, je vous dis juste que je pourfends l'idée d'une société archipélisée et qu'il nous faut absolument conforter l'idée de faire nation.
Et c'est donc sur ce genre de point, donc c'est à ça qu'il faut qu'on s'attende.
Parce que c'est la nation française qui est capable de relever les grands défis industriels, climatiques, par exemple. Je vois bien aujourd'hui que quand on parle d'objectifs plein emploi,
ça va être un discours ou ça va être des faits, par exemple, je sais pas, l'uniforme, le SNU.
Je subodore, je pense qu'il y aura vraiment du concret pour les Français, okay. Mais il ne m'appartient pas de vous le dire.
Olivier Véran, plusieurs points. Vous disiez tout à l'heure à propos de Clément Beaune, donc le ministre des Transports, qu'il s'est exprimé sur la loi immigration. Je voulais savoir, est-ce que vous avez pensé à démissionner au moment de la loi immigration ?
Pas une ligne. Pas un mot de cette loi immigration n'a été inspiré, écrite, rédigé par le Rassemblement national. Moi, j'ai surtout entendu beaucoup de bêtises.
C'est pas une victoire idéologique.
Ben non.
On vous a très peu entendu d'ailleurs à ce moment-là. Hein. Au moment de la loi, c'était juste avant Noël.
J'ai fait ma part en m'adressant, y compris aux députés qui étaient parfois amenés à douter. J'ai moi-même posé des questions sur le fond lorsque j'avais des questions. Par exemple, je vais vous dire en toute honnêteté, j'avais complètement zappé le fait qu'en 2016, lorsque j'étais député socialiste sous Hollande et que j'avais voté la création de la prime d'activité, j'avais voté le principe selon lequel cette prime d'activité n'était accessible qu'aux étrangers ayant 5 ans de résidence en France. Et à l'époque, sous François Hollande, lorsque j'étais député socialiste, personne ne parlait de préférence nationale parce que ça n'en est pas. Donc je vous dis juste que étendre à de nouvelles prestations des mécanismes préexistants dans la loi, j'aurais pu vous parler du RMI ou du RSA, mais je vous parle de ce que je connais le plus parce que je l'avais voté en 2016. Et aucun journaliste, aucun politique à l'époque ne s'en était ému. Je vous dis juste qu'on vit dans une époque aujourd'hui où il y a beaucoup de tensions, on est dans l'hyper-réaction systématique et le premier réflexe qu'on peut avoir face à un texte de loi, c'est de commencer à vouloir le caricaturer ou le critiquer au-delà.
Ce texte de loi est tout à fait acceptable en l'état.
Il se trouve que, je ne vous ai pas dit en l'état, je vous dis juste que d'abord, pas une ligne, pas un mot n'a été inspiré ou écrit par le Rassemblement national. Parce que vous savez que le Conseil constitutionnel a été saisi et qu'il y a des dispositions.
Il y a une forme d'hypocrisie là-dedans. On a l'impression que pour certains, bon, vous l'avez voté, il est passé, vous dites ouf. Et en même temps, vous espérez qu'il y aura une sorte de tour de rattrapage et que le Conseil constitutionnel fera le boulot que vous avez fait.
Quand vous êtes au Parlement et j'ai porté je ne sais combien de textes comme ministre, rien que des états d'urgence sanitaire pendant le Covid, je crois 15. Des textes difficiles, je sais ce que c'est. Avec une adoption difficile dans les deux chambres, je sais ce que c'est. Et ils ont tous été adoptés. Bon. Il se trouve qu'à plusieurs reprises, il m'est arrivé de dire, dans cette situation aux parlementaires, ce que vous proposez n'est pas constitutionnel. Et il est arrivé que les parlementaires décident de le voter quand même.
Mais vous avez entendu.
Dans ce cas-là, le Conseil constitutionnel, il fait son travail. C'est-à-dire qu'il... Il casse des dispositions qui ne sont pas constitutionnelles.
Clément Beaune, il faudra éviter tout nouveau débat sur l'AME. Mais ce n'était pas le deal qu'il y ait un nouveau débat sur l'AME ?
Le débat sur l'AME, il a été si pré-tranché de manière importante par le rapport qui a été rendu par Claude Évin et par Patrick Stefanini, qui disent qu'il ne faut pas le transformer en aide médicale d'urgence. C'était le gros du débat. Et vous savez, vous connaissez ma position, je m'étais exprimé clairement là-dessus. Bon, Par contre, vous voyez, c'est intéressant parce que j'écoutais dans les... J'ai vécu des fêtes de Noël et de Nouvel An, comme vous j'imagine. J'ai rencontré des copains, de la famille, comme vous j'imagine. On a parlé politique dans les différents repas, comme vous j'imagine. Et donc, j'ai pu entendre aussi la perception des uns et des autres sur la loi que nous avions votée. D'abord, j'ai perçu qu'une partie des Français, en tout cas dans mon entourage, disaient « Cette loi, elle est bien, quand même, il la faut. »
70% des Français estiment que c'est bien.
C'est quand même bien de le reconnaître. Mmh. Et puis d'autres personnes qui m'ont dit « Mais la loi que tu as votée, là, elle tue la ME. » Non, en fait, les amis, non, pas du tout. D'abord, il n'y a pas une ligne sur la ME dans la loi.
Oui, mais enfin, Elisabeth Borne, elle s'est engagée auprès de Gérard Larcher. J'ai la lettre sous les yeux. Oui. Je souhaite vous informer que j'ai demandé aux ministres concernés de préparer des évolutions réglementaires ou législatives qui permettront d'engager une réforme de l'AME.
Oui, et donc, et on en a fait quand de, la dernière réforme de l'AME, c'était quand? J'étais ministre de la Santé, c'était il y a 2 ans et demi. Je défends l'AME, j'ai fait une réforme réglementaire et législative de l'AME.
Oui, mais là, elle dit à venir. Elle dit ce sera fait début, elle précise, ce sera engagé en début d'année 2024.
Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Il y a des prestations sociales.
Est-ce que vous êtes en train de leur faire à l'envers, à LR?
Non. Il y a des prestations, sociales ou non sociales d'ailleurs, y compris de collectivités, comme des tarifs réduits, que vous touchez quand vous avez l'AME, mais que vous ne touchez pas quand vous n'avez pas l'AME. Et donc, on s'est aperçu qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent rester en situation d'irrégularité pour continuer à percevoir l'AME afin de toucher ces prestations. Bon, ça c'est débile, c'est pas le sens de la sécurité sociale, voyez ?
Olivier Véran, Gérard Depardieu, il vous rend fier ou pas ?
Ah, d'abord, là aussi, pardon... Parce que ça aussi, c'était un sujet de conversation à la table de Noël et du Nouvel An.
Ouais,
et
c'est surtout ensuite une conversation d'Emmanuel Macron qui a dit qu'il le rendait fier et qu'il rendait fier la France.
C'est un sujet, que, pardonnez-moi, qui est beaucoup plus large que cela. D'abord, vous parlez d'Emmanuel Macron. Enfin, pardon, c'est le candidat qui, en 2016, a mis sur la table la question des violences faites aux femmes dans les transports en commun. Et il était même attaqué à l'époque pour ça, en disant pourquoi il parle de ça. Mais attendez, le rapport, c'est que la politique que nous menons...
Donc comme il a fait ça, il peut se permettre de dire que...
Je vais aller au bout de ce raisonnement. La politique que nous menons, elle porte des résultats. Vous pourriez m'interroger, par exemple, en parlant des violences faites aux femmes, sur le fait que pour la première fois, depuis très longtemps, le nombre de féminicides est passé en dessous de la barre des 100, ce qui est encore trop élevé, mais ce qui est une baisse de 15% par rapport à l'année précédente. Ce qui veut dire que les bras grands dangers, ce qui veut dire que les numéros d'appel, ce qui veut dire que la capacité de reloger les femmes victimes de violences, c'est quelque chose qui fonctionne.
Mais
moi, je vais vous dire les choses. Un, les propos tenus par Gérard Depardieu dans ce reportage tel que je l'ai vu, ces propos me choquent et j'ai une pensée pour les personnes qui se sont senties offensées, qui sont victimes. J'entends aussi qu'il y a des personnes qui ont porté plainte contre Gérard Depardieu, la personne, pas l'acteur, contre lui, parce qu'elles estiment avoir été victimes de violences et qu'elles demandent une réparation. Et donc je vous ferai la même réponse que dans tout ce type de situation. Lorsque la justice est saisie, c'est à elle de trancher, pas à vous et pas à moi. Nous ne sommes pas un tribunal populaire. C'est vrai, Apolline de Malherbe, qu'ayant dit cela, du fait que je suis choqué par les propos que j'ai vus, que je trouve nuls, vous dire que ça reste des propos tenus dans le cadre d'une émission, qu'il faut, c'est à la justice en de fait, définir les choses. Non mais, voyez ce que je vous dis ou pas.
Peut-être pourquoi est-ce que Emmanuel Macron n'a pas commencé à dire comme vous que au départ, il y a quand même des.
Mais je vous dis, j'ai commencé par vous dire à rappeler l'engagement d'Emmanuel Macron pour l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes, et avec les résultats que nous obtenons. Et il y a encore quelques semaines, il y a encore quelques mois, on me disait vous n'avez pas de résultats sur la politique que vous conduisez, et je disais vous allez voir, l'Espagne ça a pris un peu de temps, et ensuite les féminicides ont commencé à baisser. Ça va être le cas en France.
Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, merci d'avoir répondu à mes questions.